La pollution visuelle. Exactement. Je regrette un peu l'époque de Pagnol ou de Cézanne, où on avait vu sur notre Sainte-Victoire ou alors sur le Gare-Laban.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, chaque après-midi, 2 heures désormais pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Une émission dans laquelle, je cite Cyril, notre rédacteur en chef, on rigole autant que dans l'opération Cornet Beef, mais en apprenant plus de choses quand même. Seulement voilà, tous les sujets ne se prêtent pas à rire et cet après-midi, c'est Manon qui a trouvé notre thème. L'idée lui est venue alors qu'elle rendait visite pendant les vacances à son collègue Quentin, lui, dans la ville qu'il a vu grandir. Façon de parler, mais vous voyez de quoi je parle. Alençon. Déjà éprouvé dans sa chair, dans son âme, par la découverte au printemps dernier de la ville de Lourdes, dont est originaire son ami Pierre Courade, et qui lui avait inspiré cette question restée sans réponse, mais pourquoi ? Manon a franchi un nouveau cap en découvrant la zone commerciale d'Alençon, où Quentin, lui avait donné rendez-vous pour, je cite, « la régaler au paradis du fruit », idéalement situé sous la rocade de la 28. Ce qu'elle a vu ce jour-là...
Le gros Bershka, là.
Elle ne l'oubliera jamais, et ça lui a inspiré le thème de notre émission Zoom aujourd'hui sur la France moche. Cette France, des zones industrielles et commerciales, et même des centres-villes, quand ceux-ci sont défigurés par les enseignes publicitaires criardes. Alors, où en est-on dans la prise de conscience ? Cette France moche est-elle en train de reculer ? Les entrées de nos villes vont-elles retrouver visage humain ? Quand ? Comment ? Zoom, Zoom Zoom Zen, spécial pollution visuelle, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Mais je peux pas vous laisser dire à l'antenne qu'Alençon est moche.
Quentin, vous savez bien que c'est de l'humour.
C'est une blague. Hein.
Alençon, c'est chez moi aussi, Quentin.
Ouais, oui.
C'est pour
enfin,
ça.
Figurez-vous qu'Alençon n'est
évidemment
pas moche. Elle n'a pas une architecture facile. C'est différent.
Bonjour David Mangin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. David, vous êtes architecte et urbaniste. Vous avez remporté le Grand Prix de l'urbanisme en 2008. Vous avez travaillé sur des grands projets comme les Halles de Paris ou la ZAC de Toulouse Aérospace. Et c'est vous qui avez inspiré à Télérama cette expression « la France moche » après la parution de votre livre que j'ai pris d'ailleurs avec moi aujourd'hui, « La ville franchisée ». Vous y dénonciez l'omniprésence des zones commerciales à l'entrée de nos villes. David, on va revenir évidemment avec vous sur cette France moche et surtout réfléchir à comment la rendre belle à nouveau. Juste le temps de vous présenter ceux qui sont beaux comme des camions. Ils sont les Jamy et Fred de la Gen Z. Sauf qu'entre eux, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté sexuelle. Enfin, peut-être au début. Non, je ne sais pas. Manon Mariani, quand t'as lu, bonjour.
Oui, c'est clair. On les embrasse.
C'est clair.
Ouais.
Oh là là.
À vos côtés,
bonjour,
David.
Bonjour à tous. Oui.
À vos côtés, elle est encore sous le choc de ce qu'elle a découvert au-delà du périph. Ces gens qui, le week-end, ne vont pas acheter des kéfirs au Suro chez Biocoop, mais des danettes à la vanille chez Lidl. Des gens pour qui Yuka est une plante grasse et pas une application indispensable. Manon, est-ce que vous pensez que malgré le choc culturel, vous êtes capable de nous indiquer la personne à suivre pour aller plus loin sur notre thème du jour?
J'adore les danettes à la vanille,
oui,
sachez-le.
Moi aussi d'ailleurs.
Une femme qui embellit justement ces villes moches avec des monuments artistiques.
Face à vous, David, il est aujourd'hui, si j'ose dire, le local de l'étape. Made in Normandie en 1991, sur la musique d'ailleurs de Stone et Chardin, paraît-il, Quentin fait partie de ces gens qui savent ce que c'est que de pousser un caddie chez Netto avant d'aller se faire couper les cheveux dans un salon baptisé Instinctif, voire, je l'ai découvert cet après-midi, Chambre à air, avec l'orthographe américaine. Quentin, vous êtes dans votre élément et vous nous direz ce que les passants que vous avez croisés pensent justement de la France moche.
Je me suis rendu à Aubagne, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a là-bas une zone industrielle et commerciale, la zone des Palus, placée au pied du très beau massif du Gare-Laban. Autant vous dire qu'elle fait un peu tâche, un micro-trottoir complètement à la zone, Indus, dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous verrons que la pollution visuelle n'épargne pas les centres-villes. Le Zoom Zoom Test sera consacré aux campagnes de pub les plus foireuses de ces dernières années. Le premier qui me dit la campagne d'Inter où t'as l'air d'avoir un balai dans le cul, contredit par le slogan « Voyons large », sera évidemment licencié.
Pas contredit.
Sur le champ. Juste avant 17h, on rira
avec ce bon vieil
Ahmed Sparrow. Mais d'abord, David Mangin, est-ce que en 2024, vous adhérez toujours à ce terme de France moche?
C'est un terme que Télérama a lancé en couverture d'un numéro qui s'intéressait principalement aux entrées de ville, mais en réalité, dans l'article, déjà à ce moment-là, on avait essayé d'élargir la question, parce qu'on se focalise beaucoup sur les zones commerciales, la publicité, mais je crois que le problème de notre environnement visuel est beaucoup plus large que ça. Donc je dirais que c'est plus environnemental maintenant,
la mocheté.
Qu'un problème esthétique de goût et de couleur.
Et c'est aussi au cœur des centres-villes, on le verra, c'est pas seulement les entrées des villes. Oui. En bout de table, il est la preuve vivante qu'on peut devenir beau en ayant grandi dans la France moche, puisqu'il nous vient de Ponto Combo, qui, de son propre aveu, et je cite, pas trop mal, mais moins charmant que Venise. Bonjour Cyril Lacarrière.
C'est vrai que c'est différent.
Je connais pas Ponto Combo, je blague. Est-ce que c'est sympa?
Non, c'est pas très beau, mais c'est pas moche, mais c'est pas très beau.
Voilà, c'est ni l'un ni l'autre.
À l'époque, oui.
À l'époque. Alors Cyril, dites-nous, vous qui avez enquêté intensément en partage de connexion depuis un café de la place Saint-Marc.
12 euros l'espresso. J'en ai profité.
La pollution visuelle, d'où ça se...
Saviez-vous, mon bon Noël, qu'il existe un site internet qui s'appelle Mister Enseigne?
Eh bien non.
mr-enseigne.fr pour être précis. Une sorte de monsieur bricolage, mais pour les enseignes, et en version Mister plutôt que monsieur. Eh bien, il est très utile ce site, surtout si vous vous renseignez sur les enseignes. Qui se renseigne sur les enseignes? Eh bien, le rédacteur en chef d'une émission consacrée à la pollution visuelle, car le plus souvent, oui, qui dit pollution visuelle dit enseigne. J'ai par exemple appris que les enseignes ont commencé à voir le jour au 15e siècle. C'était le plus souvent des symboles pour différencier les commerçants. Il y a aussi eu des enseignes vivantes, vraiment vivantes, avec des animaux enfermés dans une cage au-dessus de la boutique. À l'époque, on ne parlait pas encore du bien-être animal.
Brigitte Bardot, si tu nous écoutes.
Tu l'embrasses?
Évidemment.
Une date marquante, 1577. Le roi Henri III rend obligatoire les enseignes pour les aubergistes. Pourquoi spécifiquement eux? Eh bien pour que personne ne puisse dire qu'il ignorait où il mettait les pieds, même les illettrés. Donc, à l'origine, les enseignes, c'était surtout de l'utilité publique. D'ailleurs, elles servaient même à repérer les rues, jusqu'en 1805, quand Napoléon fait numéroter les rues de Paris. Du coup, les enseignes perdent une partie de leur utilité. À cette époque, il y a un peu plus de 1000 enseignes dans la capitale.
Mais la véritable bascule arrive un siècle plus tard.
Au début du XXe, avec les enseignes lumineuses, une invention française. Oui, monsieur, on la doit à Georges Claude, un physicien et chimiste qui est aussi devenu un inventeur, notamment du tube à néon. En 1910, le tout premier est installé boulevard Haussmann. Deux ans plus tard, Georges Claude s'associe avec la société Paz et Silva qui fabrique de l'électroménager et des publicités lumineuses. L'idée va vite s'exporter vers les États-Unis. Voilà, c'est parti, on n'arrêtera pas le progrès. Il y aura désormais toujours plus de lumière, toujours plus de pubs, toujours plus de néons. Et Georges Claude finira collabo. Bravo, monsieur. Alors, comment enrayer cette pollution visuelle? Qui en sont les premières victimes? Quelles sont les conséquences de cette pollution? Jusqu'où peut-on les supporter? Est-ce qu'on s'est habitué aux moches? Comment make our ville belle again? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. David Mangin, est-ce que la pollution visuelle est une pollution aussi dangereuse que la pollution de l'air, par exemple?
Ah, pour certains, oui, mais le problème, c'est qu'on s'habitue à tout, et notamment quand on y vit. Mais je voudrais rajouter quand même une étape décisive par rapport à ce que vous venez de dire sur l'évolution des enseignes, c'est l'arrivée de la voiture.
Qu'est-ce que ça a changé?
Ça a changé tout. On ne peut rien comprendre de ce paysage des périphéries si on ne comprend pas que c'est des routes, avec tout le système autour des routes et de la voiture, c'est-à-dire pas uniquement le véhicule voiture, mais les parkings, mais les stations-service, toutes les aires de service. Donc là, les parkings, ça a changé les immeubles. Donc c'est ça qui, fondamentalement, va permettre l'étalement urbain. Et à ça va s'ajouter, dans les années 70, l'arrivée de la grande distribution, qui va très bien comprendre qu'elle doit s'installer sur les grands carrefours des rocades, à la sortie des villes, mais aussi à l'entrée des villes. Et puis, la maison individuelle, qui devient promue comme le nouveau mode de vie. Donc, c'est ces trois choses ensemble. Le système routier, le système de la grande distribution et les lotissements de maisons individuelles qui font ce paysage.
J'ai l'impression qu'on parle d'une américanisation de la société. C'est ça qui s'est passé, en fait.
Oui, pas tout à fait dans le même ordre qu'aux États-Unis, mais c'est ce qui se passe partout dans le monde, si je peux vous rassurer. Partout dans le monde, y compris, par exemple, la grande distribution est très puissante comme modèle en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, Carrefour, Auchan, etc. Ils exportent ce modèle.
Est-ce qu'on est à un moment de bascule, un moment charnière, où on commence à se désengager de ce modèle-là, où on commence à arrêter les grandes surfaces?
J'espère qu'on est à un moment où on a compris que c'est pas simplement de formater les panneaux publicitaires et les aligner le long d'une route qu'on va résoudre le problème. Parce que le problème, il est un vrai problème d'environnement. C'est-à-dire la ville pour et par la voiture et la dépendance automobile de tout le monde. Je sais pas si vous savez, mais 80% des gens utilisent la voiture pour faire 3 km, 2 km, 1 km. Et ils emmènent leurs enfants à l'école. Donc c'est un monde très fou, en fait, si vous le regardez objectivement. Donc, on commence à comprendre ça. Et maintenant, toute la difficulté, c'est qu'il y a des acteurs très puissants, notamment la grande distribution, qui sauraient l'effet de levier possible, qui sont difficiles à bouger.
Mais le terme France Moche, qui est apparu, quand il est apparu, le patron des supermarchés U, Dominique Schelcher, il y a eu un mépris de classe, des millions de Français fréquentent ces zones commerciales.
Oui,
vous aimez cette.
C'est pas un argument qui a tenu très long. Parce que moi, je l'ai entendu quand. Moi, j'étais. C'est pas moi. Le titre est de la rédaction, comme on dit. Donc, c'est pas mon angle d'attaque du tout. Mais en réalité, donc un certain nombre, notamment des gens des sciences humaines, des sociologues, etc., ont commencé à dire, mais c'était un mépris de classe, etc. Mais en réalité, au bout de, quand vous lisez leurs articles, au bout d'une page, ils commençaient à dire, oui, il y a un problème.
Mais pour vous, on pourrait faire sans ces zones commerciales ?
Alors, la clé, c'est le réseau routier, dans son étalement, qui permet ça, et qui offre de très grandes surfaces pas chères en périphérie. Donc, changer ce modèle-là, on a beau tous dire qu'il y aura moins d'argent pour les autoroutes, etc., c'est en avant comme avant. Donc, c'est extrêmement difficile d'arrêter ça.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
C'est une forme de pollution qu'on oublie parfois, mais qui fait mal aussi. Zoom cet après-midi sur la pollution visuelle avec l'architecte et urbaniste David Mangin. David, on évoquait ces zones commerciales à la périphérie des villes, mais en centre-ville, il y a désormais des aides publiques pour refaire les devantures et les enseignes des commerces. Ça prouve bien que les choses sont en train de bouger quand même.
Ça prouve que les maires s'inquiètent beaucoup du fait qu'ils ont laissé eux-mêmes, parce que c'est quand même les maires qui donnent les permis de construire à un moment ou à un autre. Et donc, tout d'un coup, ils se disent « Ah, peut-être on a un peu merdé, pour parler trivialement. » Et donc, maintenant, comment on fait ? Donc, on investit beaucoup d'argent pour essayer de refaire des rues franchisées qui ne sont pas beaucoup plus marrantes qu'une zone commerciale. Et donc, ça devient compliqué.
On recevait l'autre jour un autre urbaniste, Carlos Moreno, qui prône une ville, la ville du quart d'heure, où tout peut se faire en un quart d'heure du lieu où on habite, c'est-à-dire la santé, les courses, etc., la culture. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait réduire, ce modèle-là, l'impact des fameuses zones commerciales et favoriser aussi une esthétique plus agréable?
Mais il y a déjà des choses très très simples, parce que sans parler des grandes villes ou des centres-villes, les bourgs et les villages par exemple,
allons-y,
qui se sont développés avec des lotissements, qui sont très dépendants de l'automobile, et qui ont vidé les commerces de bourgs et de villages. Or maintenant, il y a suffisamment de maisons pour avoir un seuil de rentabilité qui fait qu'on pourrait remettre du commerce dans les bourgs et dans les villages. Et on commence à voir, mon observatoire c'est la Bretagne, donc j'y vais assez régulièrement et je peux comparer d'une année sur l'autre. Et là, à ce moment-là, si vous faites des maisons individuelles plus denses, c'est-à-dire côte à côte, si vous regardez les itinéraires pour aller à l'école, déjà vous allez retrouver une ville du piéton, voire du cycliste, voire du vélo électrique, qui va déjà beaucoup satisfaire beaucoup plus de gens. C'est en ça, il faut être optimiste pour ça.
Il y a des exemples de réussite. Parfois, vous traversez, j'imagine avec l'œil de l'urbaniste, de l'architecte, vous traversez des endroits, vous dites, tiens, là, c'est bien fichu.
Ça m'arrive de traverser maintenant des bourgs et des villages où je vois que le maire a essayé de fabriquer un itinéraire qui permet aux adolescents d'aller au village ou d'aller trouver le bus
en vélo.
Et d'avoir plus d'autonomie. Parce que le drame de tout ça, c'est que vous faites de la séparation entre les gens et entre les générations.
Pour en venir à la France moche, à la pollution visuelle, aux devantures un peu loufoques dans certaines villes, si tout est harmonisé, comment les commerçants vont pouvoir se différencier ? Je fais un peu l'avocat du diable, mais j'imagine que certaines villes ont des chartes, on ne peut pas mettre n'importe quelle enseigne sur du patrimoine bâti. Comment on fait ?
Non, mais le problème de la publicité, c'est que pour reprendre le fil historique de tout à l'heure, là on est dans une période très bizarre, parce que les prescripteurs du commerce aujourd'hui, c'est nos applis. Les gens regardent, ils ne sont pas idiots, ils regardent le GPS. Alors pourquoi avoir des gigantesques panneaux qui vous disent à la rentrée le cartable à 50% et qui font de la pollution visuelle, tout terrain, et qui en plus payent des gens pour, sur leur maison, cachent leur maison avec des panneaux.
J'ai l'impression qu'on ne va pas réussir à s'autodiscipliner. Est-ce qu'il ne faut pas que l'État, tout simplement, légifère ou que...
Mais il y a quelques départements. Par exemple, je suis dans le Périgord il y a 2-3 ans. J'ai été stupéfait. Il n'y avait pas de publicité, y compris parce que il y a les gros, et puis il y a les moyens, puis il y a les petits. Et donc, tout le long de la route, vous allez trouver un petit panneau parce que le type, il a un Airbnb, il a un machin, etc. Et là, c'est total, ça, pour moi, c'est vraiment ça, la pollution visuelle. C'est, vous êtes dans la campagne. Bon, quand vous êtes dans une zone commerciale, que ça pète de couleur, ça ne me gêne pas trop. Ce qui me dérange beaucoup, c'est quand il faut passer d'un parking à un autre pour simplement comparer entre deux magasins.
Et du coup, chaque département peut légiférer.
Oui. Non, mais ils ont du pouvoir, c'est ça qui ne va pas. Ils ont du pouvoir, mais la grande distribution a encore plus de pouvoir, parce qu'elle a le pouvoir de dire « c'est l'emploi ». Donc pas touche. Et laissez-nous faire, on sait faire. Ça a marché comme ça pendant 50 ans, on va continuer.
Ce que vous nous dites, et j'aimerais juste conclure cette partie là-dessus, parce que je n'y avais jamais pensé, c'est que la pollution visuelle est non seulement un problème, mais elle est surtout devenue inutile, au sens où aujourd'hui, la publicité, toutes les informations, on les a sur nos applis, sur notre téléphone. On n'a pas besoin de panneaux pour nous dire qu'à 30 mètres, il y a le Darty, on s'en fout, on le sait. Oui. Donc oui, c'est vrai que c'est un argument supplémentaire. Même moche, lui, il aime sa France. Il l'aime fort. Chaque après-midi, il part sur les chemins à la rencontre de ceux que Cyril Lacarrière ne voit même pas et éclabousse en passant avec son surpuissant scooter Nippon. Quentin, vous avez parlé du problème de la pollution visuelle dans la rue. Direction Aubagne, dans le département des Bouches-du-Rhône.
45 000 habitants, un centre-ville provençal, une vue sur le massif du Garlaban et cette zone commerciale des Palus que j'avais repérée comme un endroit qui colle quand même à notre sujet du jour. 170 hectares, 1000 PME, 10 000 emplois, un immense Auchan au milieu des foires-fouilles, Carglass et autres concessionnaires et très très peu de place pour les piétons. J'arrête quand même ce jeune homme qui traverse.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Là, je suis allé m'inscrire à une agence d'intérim. Des petits boulots pour gagner un peu de sous, quoi.
Il découvre le sujet qui m'intéresse aujourd'hui.
La pollution visuelle désigne les éléments qui obstruent ou dénaturent les paysages naturels et artificiels. Ah bah voilà. Les panneaux d'affichage, les fils électriques et les détritus sont de bons exemples.
Eh ben on a les trois.
C'est vrai. C'est surchargé, quoi, en fait.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est vrai qu'on a le Garlaban qui est juste là, on se passerait de quelques grands panneaux, quoi.
Ouais, devant nous, une superposition colorée de panneaux en tout genre. Je ne distingue même plus les panneaux de signalisation pour la route.
Ah oui, non, c'est sûr, c'est pas évident, mais c'est plus la circulation qui est... Voilà, on a la pire heure en plus.
C'est facile de grandir dans la France moche ?
C'est une bonne question. Je pense que j'aurais pas la réponse. Il y a des plus, il y a des moins, mais... C'est pas toujours facile, mais des fois, faut essayer de s'accrocher, quoi.
Lui, il me sourit en voyant le micro France Inter avec son sac de sport sur le dos, petit dégradé dans les cheveux, salut.
Salut.
Tu sors du sport, toi ?
Oui, exactement.
Tu fais quoi ?
Là, j'ai fait un peu de muscu, et à côté de ça, je fais un peu d'art martial mixte. Très à la mode en ce moment.
Ouais, il y a des motos partout, c'est un lieu de vie aussi, cette zone, avec une salle de sport, une boulangerie, un bar à salade. Je lui demande ce qu'il pense de...
La pollution visuelle. Ça va pas aller en s'améliorant avec le digital qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et effectivement...
On voit les panneaux qui sont des écrans en fait maintenant.
Exactement. Bah, c'est pour ça le digital, j'y faisais allusion. Je regrette un peu l'époque, même si j'ai pas connu parce que je suis encore jeune, mais l'époque de Pagnol ou de Cézanne où on avait vu sur notre Sainte-Victoire ou alors sur le Garlaban.
Mais alors, est-ce qu'il en souffre de ce décor ?
Alors, heureusement, je travaille qu'ici. Sinon, j'habite du côté du Tolonnais. J'ai choisi de vivre là-bas parce qu'en fait, tout simplement, voilà, moi, je suis quelqu'un qui suis très proche de la nature. Donc, de travailler ici, je m'en contente. Okay. Mais de vivre ici, je ne pourrais pas. Travailler et consommer, malheureusement. J'ai pas encore gagné au loto, donc j'ai pas trop le choix.
Tu joues ?
Non.
Ah, mon cher, la base, c'est de jouer, forcément. Ces deux-là traversent péniblement la route embouteillée, deux retraités en vadrouille, à pied, alors la zone des Palus.
Ah, c'est sûr que c'est pas joli, on est bien d'accord, mais bon. Et comme c'est une vieille zone commerçante, ils ont pas pensé à l'aspect visuel. C'est d'époque, hein. Maintenant, les architectes, c'est sûr qu'ils doivent avoir beaucoup plus d'idées que ce qu'il y a maintenant. Après, pour décorer, c'est encore une histoire d'argent, hein. C'est toujours pareil. Et comme la mairie est suffisamment endettée, c'est pas la peine qu'ils viennent s'occuper de ça, hein, je vous le dis. Hein.
Mais qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit qu'on laisse ce coin-là moche, quoi.
Ah mais comment vous voulez faire ? Il n'y a pas d'argent.
Pourtant, une zone commerciale où travaillent 10 000 emplois, ça doit générer des revenus. Est-ce qu'il ne faudrait pas les réinvestir pour embellir le coin ? On demandera à notre invitée si l'argent est le seul problème. Elle sort du taf, elle est presque prête à démarrer quand je m'approche avec mon micro.
Bonjour.
Ah, je vous fais ressortir de la voiture.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis assistante de gestion. La pollution visuelle.
C'est une émission qu'on fait un peu sur la France moche.
Ok. Super, du coup, c'est pour ça que vous m'interviewez ?
Ah mais non !
Non, je vous charrie, y a pas de problème.
Non. Par contre, c'est sur votre lieu de travail.
Oui, effectivement. Non, j'avoue, même le parking, c'est pas un endroit qui me donne envie, moi. Même le bâti, la couleur des bâtis, c'est vrai que c'est toujours, c'est gris, c'est de la tôle, c'est du fer.
Il y a des matins où c'est dur ?
Tous les matins ? Non, je suis méchante. Ouais, c'est sûr que c'est pas... c'est pas waouh.
C'est pas waouh, mais pas dramatique. Elle ajoute une chose intéressante.
Je pense même qu'on s'habitue, malheureusement, peut-être.
À la France moche ?
Bah, sur des trucs comme ça, oui. Parce que là que vous m'interviewez, je vais développer le sujet, je vais y réfléchir. Et c'est vrai que c'est des choses qui vont me choquer. Mais sinon, on n'en parle pas. Je pense, effectivement, à la France moche, peut-être, comme vous dites. Mais entre l'envie et la réalité, on voit qu'il y a un gouffre quand même, même au niveau de la propreté, hein, quand même. Hein. Nous, on le voit sur le parking, il y a beaucoup de déchets, il y a des petites choses comme ça, où moi, ça me gêne. Alors, il y a des choses qu'on ramasse quand même un petit peu devant notre bien.
À 31 ans, est-ce que vous voulez faire votre carrière dans le coin ou...
pour l'instant, je vais rester encore là quelques temps, mais effectivement, j'aspire pas forcément à rester ici, c'est une certitude.
Ces endroits qu'on traverse, où l'on vient pour travailler, pour consommer, parfois aussi pour se dépenser, un enchaînement de bâtiments en tôle, bardés de panneaux colorés, de câbles électriques, de voitures et de déchets. Mais le pire dans tout ça, c'est peut-être de s'y habituer.
David Mangin, vous êtes déjà arrêté au Carglass de cette zone des Palus, près de Marseille ?
Non, au Carglass de Saint-Brieuc.
Donc, une zone qui doit ressembler aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit cette commerçante qui est intéressant ? Finalement, on s'habitue à la France moche, on s'habitue à cette pollution visuelle, on finit par plus la voir.
Non, mais c'est très difficile aux gens de s'auto-dénigrer. J'habite là...
Ils sont habitués.
Je ne sais pas où vous habitez les uns les autres. On sait très bien que les gens vont avoir un jugement sur leur logement en fonction de leurs itinéraires. Si avant, c'était moins bien, si là, c'est mieux. Voilà. Donc tout ça est très, 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 très relatif. Il faut pas rentrer dans cette espèce d'habitude qui n'en est pas une, en fait.
Quentin ? Le fait que ce soit devant un massif magnifique, hein, ouais. Les gens l'ont dit, le Garlaban, c'est quasiment une carte postale derrière. Est-ce que ça vous afflige ? Comment on a pu laisser faire ça ?
Mais je pense que la protection des grands sites de campagne ou de montagne sont il y a déjà pas mal de mesures. Hein. Il y a des mesures sur la loi littorale, la loi sur les montagnes, etc., qui met les choses à distance.
En fait. Mais elle est à distance, elle est juste devant.
Oui, mais ces boîtes... ce qu'il faut savoir, c'est que ces boîtes dont on parle là, puisqu'on dit souvent les boîtes comme ça, c'est pas parce qu'elles sont des boîtes que c'est pas bien. Parce que les boîtes, c'est... Voilà, le Parthénon, c'est une boîte. Le Boao, ça fait des boîtes. Mais c'est des boîtes qui ont des proportions, qui ont un rapport au sol, qui ont un rapport... les bâtiments entre eux, etc. C'est ça la vraie différence.
Pardon, mais là, la question à l'architecte, ça a été mal fait, ou bien tout simplement dans les 70, quand on construisait ces zones, on pensait bien faire, on pensait que c'était moderne.
Les architectes ne sont pas dans le coup. C'est pas que j'essaie de
défendre votre corporation.
De défendre ma corporation, au contraire, je suis un des rares à avoir beaucoup étudié ça, alors qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de commande pour les architectes là-dedans. Les maisons individuelles, moins de 170 mètres carrés, vous n'avez pas besoin d'un architecte. La grande distribution, elle a ses modèles qui tournent tout seul, et elle fait exactement le ratio du parking.
Ah oui, il n'y a pas d'architecte.
Le parking, non, enfin, je n'appelle pas ça des... Voilà. Et après, il y a des décorateurs qui vont choisir le bardage, et puis ça s'arrête là.
Mais dans les zones commerciales, il n'y a que quasiment des grands groupes, on est d'accord, qui sont là-bas. On ne peut pas imaginer justement que des petits commerçants pourraient y revenir.
Non, mais la solution, elle est très simple, hein, je vais vous le dire. Ah. C'est revenir au commerce en pied d'immeuble, point barre. C'est-à-dire comme dans la ville traditionnelle, entre guillemets. Vous avez des grands monoprix, je ne vais pas citer les marques, mais qui ont des très grandes surfaces sous des très grands immeubles. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que même pour les commerçants, ils ont une clientèle captive, comme ils disent, puisque les gens sont là, ils descendent, voilà. Et donc la ville du quart d'heure, elle existe. Et donc c'est ça la solution. Donc c'est petit à petit arriver à ça, en introduisant de la mixité dans les programmes, quelqu'un parlait, je vais faire du sport, mais c'est vachement bien. Et faire du sport, commencer à mettre des terrains de sport ou des playgrounds dans les zones commerciales, après vous pourrez mettre du logement assez facilement, après vous pourrez remettre un commerce qui ne soit pas aussi vampirisant que celui-là.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Certains dans ce studio qu'on ne citera pas, mais qui pensent qu'il faut faire des vaccins pour se rendre à Limoges, s'imaginent que la pollution visuelle est uniquement en région. Non, Manon, puisque c'est de vous qu'on parle, tout le monde l'aura deviné. Non, la pollution visuelle est partout, comme nous allons le découvrir dans le Zoom Zoom Test. À la découverte cet après-midi de ces campagnes d'affichage qui ont fait plus de mal à nos yeux que le Chablis à l'œsophage de Manon, on démarre en 2014.
C'est la
Quentin, qui n'a pas encore été pistonné par Willy Rovelli pour intégrer le monde de la radio, joue le tube du moment, Happy, de Pharrell Williams à la flûte à blec, place de la Bastille, où, lorsqu'il croise Manon, Manon crache dans son petit gobelet en plastique qui pendouille au bout de sa canne à pêche. Oui, souvenez-vous, Manon, c'était lui. Et alors que vous pestiez contre ce Romain Michel, qui, je vous cite, ferait mieux de rentrer dans sa cambrousse,
vous parlez de moi, là ?
Cyril Lacarrière emboutissait le capot avant de son Citroën C4 Cactus flambant neuf à cause d'un panneau publicitaire dont le slogan lui avait fait tourner la tête. Ce slogan disait « J'en ai jamais vu d'aussi longue. » D'après vous, Manon, Quentin, quel produit faisait l'objet de cette campagne ? La saucisse ardéchoise XXL de Justin Bridoux. Le nouvel album de Julien Doré, sur la couverture duquel on voyait le chanteur brandir une courgette de son potager. Ou la nouvelle canette Slim de Perrier.
B, Julien Doré.
Perrier.
Moi aussi, Manon, j'aurais aimé que ça soit une campagne décalée de Julien Doré. Mais non, on était en 2014 et on était... Premier degré. Réponse C. Oui, Perrier, c'est fou, mais c'est aussi un peu chelou. Cette affiche du monde d'avant accompagnait un spot TV dans lequel des jeunes femmes discutaient, grandes ou petites, peu importe, du moment que j'en ai une. Pouvait-on les entendre s'esclaffer ou encore le savoureux du moment que ça rentre dans le sac.
Oh là là.
Perrier s'était défendu de tout sexisme et avait quand même retiré les affiches prématurément. Moi, c'est cette campagne dégueulasse qui m'a décidé à ne plus jamais boire d'eau, expliquera plus tard Manon Marianne. Mais attention, top. Nous sommes toujours en 2014, année décidément prolifique en matière de pollution visuelle. Cyril Lacarrière vient de prendre acte de la sentence de son garagiste. Sa Citroën Cactus est pliée. Il ne pourra plus parader à son volant dans les rues de Ponto Combo en fredonnant Just Cruising de Will Smith qu'il vient de découvrir. Il a besoin de vacances et ça ne sera certainement pas ce stage sophrologie et jeûne intermittent dans le Marais Poitevin que lui propose innocemment Ghislain Fontana, avec qui il ne prend pas de gants. Écoute-moi bien le catogan, je vais pas aller me faire yèche dans un ashram de Babos alors que je peux aller me faire péter les chakras à Ibiza. J'ai tout booké sur lastminute.com, leurs affiches sont top délire.
Oh là là.
Quentin, Manon, d'après vous, que pouvait-on lire sur ces affiches top délire du voyagiste lastminute.com ? On voyait un sexagénaire entouré de deux jeunettes et le slogan « Je n'en paie qu'une des deux ». On voyait un jeune homme à l'air méprisant dominant une jeune femme à l'air stupide et le slogan « Ma copine ne vaut rien ». Où on voyait Bruno Retailleau qui disait « Le Maghreb a porté d'OQTF en frottant une lampe d'Aladin ».
A et B.
Ah,
vous avez dit quoi, Manon ?
AB, c'est les deux.
Vous avez dit AB.
C'était une grosse campagne.
C'était effectivement.
Enfin, il n'y a pas lassé, je pense.
Non, effectivement. Bruno Retailleau n'était pas dans le coup. C'était déjà suffisamment choquant comme ça. Réponse A et B, effectivement. Encore une belle illustration de ce qu'on appelle le chic à la française. Cette campagne, un brin sexiste, s'est rapidement faite troller par les organisations féministes avec des tags comme « Moi, je pars sans lui » ou « Plutôt rester travailler que partir avec lui ». 99% de commentaires négatifs. Seul Cyril avait tweeté à l'époque « Oh, ça va, on peut plus rien dire ». Mais attention, on remonte encore un peu le temps jusqu'en 1999.
Un bon Lou Béga.
Lou Béga, qui aujourd'hui doit tenir une concession Chevrolet dans le Wisconsin, triomphe avec son tube Mambo No. 5. Et cette année-là, la concurrence fait rage entre les marques de cola. Et justement, pour se démarquer, Virgin Cola décide de faire une campagne de sensibilisation au passage à l'euro. Quentin, Manon, en gardant à l'esprit que 1999, c'est vraiment l'apogée de la créativité dans les agences de pub en France et aussi le pic de production de cocaïne en Colombie, parmi les trois propositions suivantes, laquelle est un vrai slogan de cette campagne d'affichage de Virgin Cola ? Facilitez-vous l'euro, R-O-T ? On a tous le droit à l'euro, R-O-T ? Ou après les Q, en deux mots, l'euro ?
Ah. Oh, B.
Souvenez-vous, on est en 1999.
Ouais.
Sache-nous, fait tout va dans les agences de pub.
Les trois ?
Les trois ! Bonne réponse de Quentin, lui. Et oui, les trois, c'était aussi une grosse campagne de 99.
On me souffle dans l'oreillette que Lou Béga était allemand, voilà, sachez-le.
Et qu'est-ce que ça peut me faire ?
Parce que vous avez parlé d'avoir une concession, je ne sais où, donc voilà.
Ah oui, il aurait pu ouvrir sa concession.
Oui, oui, bien sûr. Ouais.
Lou Béga était allemand.
Première nouvelle.
J'apprends quelque chose. Ouais. J'apprends quelque chose. Maintenant, je vous donne un point supplémentaire. Peut-être que c'est vous qui allez remporter le quiz. En 1999, certaines pubs étaient aussi profondes que les narines des concepteurs-rédacteurs qui en avaient eu l'idée. Celle-ci était signée de l'agence Hémisphère Droit. Et non seulement l'idée était géniale, mais le timing aussi, puisque la campagne après l'écu, l'euro, a été déployée quand, d'après vous ? Eh bien, entre le 24 et le 31 décembre 99. Un bel écho à l'esprit de Noël. Victoire malgré tout, malgré le point bonus de Quentin.
Bravo,
bravo mon petit Quentin.
Ah oui.
Il a été fort.
Merci à tous.
La pollution visuelle, ça te connaît.
C'était 2-2, mais oui.
Vous avez été nombreux à me dire que cette photo de moi en 4x3 dans toutes les gares de France est désormais sur le fronton de Radio France, je vous cite, embellissez l'espace public. Et je vous en remercie, c'est vrai, c'est beau. Hélas, ce n'est pas le cas de toutes les affiches. Zoom cet après-midi sur le problème de la pollution visuelle qui gangrène notre pays. Avec vous, David Mangin, je rappelle que vous êtes architecte et urbaniste. On a parlé des zones commerciales, des anciennes criardes dans les centres-villes. On n'a pas parlé du mobilier urbain, qui peut être une source de pollution visuelle.
Il y a une source de pollution visuelle et même de pollution, d'embarrassement quand il se démultiplie. Donc un bon mobilier urbain, un, il doit être bien placé à un endroit utile, et deux, il ne doit pas être un gadget supplémentaire dans l'espace public. Donc moins il y en a, mieux on se porte d'une certaine manière.
Vous nous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a étonné, que je ne savais pas. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que par exemple les grandes surfaces, les hypermarchés, tout ça, n'étaient pas forcément chapeautés par un architecte. Est-ce que c'est pareil pour le mobilier urbain ? Est-ce que moi je pensais que les architectes étaient obligatoirement, légalement nécessaires pour tout
projet ? Non, mais il y a quelqu'un dans le groupe, il y a plusieurs
services qui met une signature.
Voilà. Mais le modèle, il est archi connu. S'il sort des rails, ce ne sera pas ça. Donc voilà. Par contre, pour le mobilier urbain, il y a des firmes qui produisent du mobilier urbain, qui prennent quelquefois des designers, qui designent le mobilier urbain.
Il faut juste choisir les bons designers. Ouais. Dans les banlieues, les tours, les barres d'immeubles sont progressivement démolies quand même. C'est surtout dans le but de rendre ces quartiers plus agréables pour leurs habitants et réduire l'insécurité. Mais quand ces ensembles ont été construits à l'époque, leurs architectes, il y a quand même des architectes, ils pensaient souvent faire quelque chose de bien, de futuriste, peut-être même de beau. Comment on peut, parce que rétrospectivement c'est facile de critiquer, on a vu que ça n'avait pas marché, on a vu tous les problèmes que ça engendrait, mais à l'époque tous les gens n'étaient pas mal intentionnés. Comment on fait pour créer quelque chose qui soit viable, durable ?
Non mais à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez Fernand Pouillon. Fernand Pouillon est un très grand architecte qui construisait en pierre. Il a été la risée du milieu. Et il a fait des choses à Marseille, il a fait des choses à Meudon, il a fait des choses à Boulogne, le Point du Jour, ça s'appelle. Ah, oui. C'est des grands ensembles absolument qui n'ont pas vieilli, qui vieillissent très bien. Donc, en fait, il avait concentré la chaîne, il produisait la carrière et il faisait l'architecte.
C'était peut-être plus cher.
Non. Enfin, c'était moins cher parce qu'il avait raccourci la chaîne. Bon, mais passons sur l'affaire de Pouillon. Non, quand on a fait les grands ensembles, il y avait le modèle de la préfabrication lourde. On a toujours dit que c'était le chemin de grue, mais en fait, ce n'est pas le chemin de grue, parce que si c'était le chemin de grue, ce serait des rues. Et donc, la grue, elle passait à gauche, la rue, elle passait à droite. Et donc, en fait, on faisait des compositions un peu abstraites, comme des tableaux de Mondrian dans les agences d'architecture.
Oui, mais parce que l'architecture, c'est aussi une histoire de mode.
C'est une sorte de mode. Oui, bien sûr, il y a des cycles.
On dit souvent, ça c'est très années 70, ça c'est très années 90.
C'est très difficile d'échapper à son époque. Vous reconnaissez la fenêtre en hauteur, et puis après on est passé à la fenêtre en longueur, et puis on revient à la fenêtre carrée, et puis etc. Donc, mais les sujets qui nous préoccupent, c'est quand même des sujets que moi j'appelle de forme urbaine, c'est-à-dire de savoir si on fait des îlots, si on fait pas des îlots, si on fait des immeubles courants d'air.
C'est quoi un immeuble courant d'air ?
Courant d'air, ça veut dire que le vent passe entre les immeubles avec des grands espaces libres. Les grands ensembles, c'est ça. Sauf que maintenant, les grands ensembles, les arbres ont poussé. Et donc, ça devient quelquefois des endroits assez valorisants et valorisés.
Il y a un débat en ce moment à l'Assemblée avec le RN qui veut interdire les bâches publicitaires qui permettent de financer la restauration de bâtiments historiques. Est-ce qu'il faut interdire ces immenses publicités ? Quitte à se passer de financement.
Non, mais derrière, il y a quand même un problème assez sérieux. C'est la privatisation de l'espace public par les grands groupes. Il y a eu des enquêtes sur les possessions d'Arnault et dans Paris, mais c'est stupéfiant. On n'imagine pas, parce qu'ils achètent, eux, effectivement des îlots complets d'hôtels particuliers dans lesquels les visiteurs de prestige viennent essayer les choses. Et donc, c'est plutôt ça. Et ça va, évidemment, avec les grandes pubs dessus.
En préparant cette émission, j'ai découvert la loi Pasqua de 98 qui impose que chaque Français doit se trouver à moins de 45 minutes d'une entrée d'autoroute. C'est quoi les répercussions de cette loi ?
C'est formulé comme ça, mais l'idée que la France on est à moins de 20 minutes d'autoroute. Mmh. C'est quand même un projet très français d'ingénieur des ponts. Mmh. On va faire un réseau après-guerre avec beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, et qui explique le fait qu'on ait cet étalement urbain. Parce qu'à partir du moment où tout le monde est à un échangeur à moins de 20 minutes, ben on est à la ville moyenne à 50 minutes.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Manon, qui est aujourd'hui la personne à suivre?
Je vous présente Mayaline. Elle a 65 ans, elle est américaine et c'est l'une des célèbres, des célèbres artistes architectes de sa génération. Et pour cause, elle a commencé très jeune avec un objectif, embellir les villes avec de l'art en designant des monuments. À seulement 21 ans, elle a conçu le Vietnam Veterans Memorial à Washington DC, un projet audacieux et minimaliste qui a totalement bouleversé les attentes traditionnelles en matière de mémorial. Elle a imaginé deux murs de marbre noir de plus de 150 mètres de long, où sont gravés les noms de plus de 58 000 Américains et Américaines morts ou disparus durant la guerre du Vietnam. Plus qu'un simple monument en mémoire à ces disparus, Mayaline a créé une vraie œuvre devenue depuis un symbole national. Elle est même qualifiée de pionnière dans l'architecture monumentale américaine, car elle fait partie de cette nouvelle génération d'architectes qui se servent de l'espace public pour créer une véritable forme d'expression qui appelle les habitants de la ville à une réflexion. Après ce coup d'éclat, de nombreuses villes ont fait appel à elle pour concevoir d'autres mémoriaux. Il y a par exemple Montgomery en Alabama, où elle a signé le Civil Rights Memorial, une fontaine en marbre noir qui honore les victimes du mouvement des droits civiques. Ce même marbre revient aussi quelques années après à Yale pour The Woman's Table, une œuvre qui célèbre les femmes de l'université américaine. Et puis, Mayaline est aussi connue pour mêler architecture et engagement écologique. Comme beaucoup d'architectes aujourd'hui, elle pense que l'un ne va pas sans l'autre. Voici ce qu'elle dit. Mon rôle en tant qu'artiste est d'essayer de faire réfléchir les gens à partir d'un autre point de vue et de les surprendre. Et elle le fait. Mayaline a par exemple signé une sculpture à l'université du Michigan inspirée par les formes des vagues dans l'eau. Sur 10 000 mètres carrés, elle a sculpté des vagues dans un sol en herbe d'un champ. Encore une fois, elle se réattribue l'espace public pour en faire de l'art qui invite à la réflexion et qui attire aussi forcément des visiteurs et des œuvres. Comme ça, elle en a fait des dizaines et ça dans le monde entier. Mayaline est même devenue l'architecte favorite d'un ex-président qu'on connaît très bien, Barack Obama. En 2009, il lui a remis la médaille nationale des arts et en 2016, la médaille présidentielle de la liberté. Et l'ancien président l'a aussi chargé de créer une œuvre publique pour l'ouverture de son centre présidentiel au sud de Chicago, qui doit ouvrir en 2025.
Merci Manon, gageons qu'elle n'est pas l'architecte préférée de Donald Trump.
Non, ça m'étonnerait.
David Mangin, est-ce que intégrer l'écologie à l'architecture, aujourd'hui, c'est, j'imagine qu'il n'y a pas un seul architecte qui vous dirait le contraire?
Oui, ça dépend à quelle échelle il le fait. Parce que si c'est pour mettre un peu de bois sur la façade, comme vous le voyez beaucoup en vous promenant, et que vous passez deux ans après et qu'elle est grise et les planches tombent, ça, on sait faire, si je veux dire. Non, vraiment, la question environnementale, c'est proposer des alternatives à la ville pour et par la voiture. Moi, j'ai une voiture, je l'utilise pendant les vacances, c'est pas un problème. Mais quand tout est organisé à partir de ça...
C'est la voiture du quotidien qu'il faut réussir à court-circuiter.
Voilà, et donc tout dépend de ça, et tous les gens de la famille dépendent de celui qui conduit, voilà, ça devient infernal. Donc c'est quand même ça le vrai problème environnemental, sans parler des conséquences, pollution, etc.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Il sera au cœur du prochain concile Vatican III, où le pape François et ses évêques devront se prononcer, non pas sur sa béatification, ça viendra plus tard en saison 16 de Zoom Zoom Zen, mais sur le fait de savoir si son petit carnet constitue oui ou non un miracle. Oui, répondent sans hésiter les scouts de Lourdes, dont il est le totem. Faut voir si ça se trouve, il utilise ChatGPT, tempère ses détracteurs qui se demandent toujours quel est son truc pour réussir à nous résumer une heure d'émission en une minute chrono. Bonjour Pierre Courade.
Tout est fait main. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Saint-Pierre, faites votre office.
Merci Père Noël. Vous avez bien fait d'ailleurs de parler de Lourdes, parce qu'à Lourdes, figurez-vous, on a pris le problème à bras-le-corps. Les nouveaux commerçants sont obligés d'adopter des enseignes discrètes, les façades sont rénovées, le tout aidé par l'État et les différentes collectivités. Ceci pour ne pas illustrer les propos de notre invité, l'urbaniste et architecte David Mangin, lui qui pourfend la pollution visuelle. En ligne de mire, les enseignes criardes, surtout quand elles s'accumulent en périphérie des villes, dans des zones commerciales qui s'étendent, héritage des 30 Trente Glorieuses, sauf pour l'urbanisme. David Mangin explique le processus, hein, l'arrivée de la voiture qui a tout changé, avec elle les routes, les parkings, les stations-service. C'est la première étape, immédiatement suivie par l'arrivée de la grande distribution. Les supermarchés s'installent naturellement le long de ces carrefours routiers. Et puisqu'on a la voiture, les routes et les supermarchés, autant vivre pas trop loin. C'est l'émergence des lotissements résidentiels et vous avez le cocktail parfait pour construire une France pas très belle. Le problème de la pollution visuelle, c'est qu'elle s'étend dans les campagnes. À quoi servent ces grands panneaux publicitaires au milieu des champs alors qu'on reçoit tous des promotions internet? Sage réflexion apportée par Mathieu Noël qu'on peut résumer ainsi. Le principal danger avec la pollution visuelle, c'est qu'on s'y habitue.
Il veut déjà une augmentation.
C'est fou ça. Vous n'êtes pas obligé de me flatter comme ça.
C'est une très belle saillie, je trouvais, dans cette émission.
N'importe quoi. Merci beaucoup, Pierre Courade. Après une semaine de pause, il est encore là, tenace, mais plus pour longtemps, si on en croit le rédac-chef qui veut sa peau. Le retour du chouchou de ces dames, qui a donc décidé de m'utiliser pour se forger une réputation de beau gosse. Ahmed Sparrow, bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis là pour vous parler de pollution visuelle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un critère esthétique qui se caractérise par la modification dégradante d'un paysage, soit privé ou public. Voilà, ça c'est la définition internet. Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est vrai, elle est présente partout, à commencer par les ronds-points. C'est abusé dans tous les ronds-points en France. Et je sais pas ce qu'ils ont, ils sont passés le mot, les maires des villes. Il y a un concours, dans chaque rond-point, il y a une œuvre d'art éclatée qui a coûté 1 million, je sais pas. Tellement de ronds-points en France qu'il y a un classement des ronds-points les plus moches de France. Et moi, j'ai checké, je suis tombé sur le rond-point de Perpignan. Ils ont créé un cadran solaire pour qu'ils puissent lire l'heure. Très intelligent, les Perpignanais. Bah ouais, parce que du coup, t'arrives en voiture, tu le vois pas. Pour le lire, il faut un hélicoptère. Ils font pas. Ouais, c'est une idée de génie, hein. C'est une idée de génie. Hein. Moi, je préférais encore quand les ronds-points ils étaient occupés par les gilets jaunes. Au moins, il y avait une ambiance, tu vois, des grillades, des bagarres, il y avait un truc. Aujourd'hui, tu quittes Paris pour la nature et pour mieux respirer, tu tombes sur des pylônes, des lignes à haute tension. Moi, je pense aux oiseaux, les pauvres. Ah bah, ils volent, ils jouent à Mikado. Hein. Tu touches une ligne, t'es mort. Avant, dans le train, je prenais des photos des paysages. Tu sais, on a tous fait ça. Tu prenais des photos des paysages. Aujourd'hui, tes photos, elles ressemblent plus à des scènes de films de science-fiction bas budget avec des placements de produits pour briques au dépôt. Tu comprends rien. Tu pars en week-end en voiture, tu te rends compte que les autoroutes, c'est devenu la Fashion Week. T'sais, que des pubs de marques qui n'existent plus. C'est genre les Trois Suisses, la Redoute, Léopoldo. Tu te rappelles les caleçons Léopoldo? C'est les caleçons, tu les mettais, ça te brûlait les couilles. Tu vois ce genre de. C'est normal que dans les cités, ils voulaient tout brûler. Sur les autoroutes, aujourd'hui, il y a tellement de panneaux, entre les panneaux et les panneaux publicitaires, les réductions de vitesse, c'est un jeu de piste, tu sais plus où t'en es. Réduisez la vitesse de 30, attention, carrefour, moins 30 sur les endives. Tu sais plus ce qui se passe. Il y a tellement de pubs sur les routes que bientôt le code de la route, ça sera une épreuve du juste prix. Je sais pas. Tellement de pubs que bientôt les villages seront sponsorisés. Bientôt France Inter en échappera pas, hein, je vous le dis. Hein. Ah. Vous allez bientôt avoir Mathieu Noé être là. Bonjour et bienvenue sur France Inter, Mobile Pav. Ça va être comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Moi, quand je pense à pollution visuelle, je pense aux zones commerciales. On a tous vu ça, tu sais, les grandes zones commerciales en province, c'est du grand n'importe quoi. Il y a un Décathlon, un Bricorama, une boucherie, une boulangerie de 400 mètres carrés, tu sais pas pourquoi. Tu viens acheter un ballon de foot, tu repars avec un faux filet, une perceuse et 400 chouquettes. Tu sais, ils font tellement pas d'efforts sur l'aménagement des zones commerciales que parfois tu tombes sur un hangar, tu sais pas si c'est Auchan ou un entrepôt de stockage militaire. À la base, t'es venu acheter un yop, tu finis fichier S. Tu comprends pas le truc. En ville, c'est pas mieux, hein. Nos yeux sont pas épargnés. Hein. Là, j'ai vu que Jordan Bardella, il se plaint que son livre n'a pas été affiché dans les gares. Moi, j'ai juste un mot à dire, cher. Voilà, on a assez de pollution visuelle, on va pas se coltiner Bardella. Non, mais c'est vrai. Après, il y a beaucoup de gens, moi, qui me voient comme un mec de cité. Voilà, je vous le dis. Moi, j'ai pas grandi en cité, j'ai grandi dans un pavillon. Voilà, un pavillon, mais un pavillon dans une cité, sur le toit d'un immeuble. Voilà où j'ai grandi. Sur la vie de ma mère, c'est vrai, je n'invente rien. Voilà, l'architecte qui a fait ça, il s'appelle Édouard François. Déjà, juste le nom, tu sais que lui, il connaît rien à la cité. Ah non, il a eu un CDI en CM2, c'est pas possible. Non, mais pavillon sur un immeuble. Pour lui, le film Là-haut de Pixar, c'est un documentaire. Non, mais c'est pour vous dire. Il a eu son diplôme dans un concours de Lego. C'est pas possible, monsieur Magin. Vous êtes architecte, c'est dégueulasse.
Il faut regarder sur franceinter.fr parce que c'est vrai que c'est criant.
C'est abusé.
Oui, c'est abusé.
Ils sont allés tellement loin dans l'aménagement du rooftop qu'ils l'ont loué. C'est pour vous dire à quel point l'architecte, il a dû prendre littéralement, tu sais, quand on lui a dit normalement un pavillon, c'est au-dessus de l'appartement. Lui, il a pris ça littéralement. Il a mis vraiment un pavillon au-dessus de l'appartement. Du coup, il fallait faire attention. Tu sais, quand je jouais dans le jardin, moi, tu tirais un peu haut, la balle, fallait la chercher 10 étages. Le match de foot, il durait 14 mi-temps. Il y avait des chiens volants, tu comprenais rien. En plus, t'es dans ta tête, tu te dis t'es dans un pavillon, tu vois. Tu crois que t'as réussi. Tu ouvres la fenêtre, tu vois que t'es toujours un mec de cité. T'as pas bougé, en fait. Normalement, les seuls voisins du dessous, quand t'es dans un immeuble, t'as des voisins du dessous, mais dans un pavillon, t'es pas censé en avoir. Moi, j'avais des voisins du dessous. Voilà. Dans un pavillon, les seuls voisins du dessous, normalement, c'est des gens qui sont coincés dans ta cave. Voilà. Et avant d'être dans un pavillon, parce qu'il faut que je vous explique un peu mon background, tu vois, parce que avant d'être dans un pavillon, j'étais dans une cité, dans un bâtiment qui a été détruit, d'accord ? Et il a été détruit parce qu'il disait qu'il était trop moche, parce qu'il y avait trop de paraboles. Vous vous rappelez des paraboles ? Avant, il y avait tout ça au balcon. Il y avait tellement de paraboles, il y en avait plus que dans la Bible. C'est pour vous dire à quel point il y en avait beaucoup. Tu sais, les antennes paraboliques. Et moi, je me rappelle, ça m'a marqué, parce que vous, ça vous parle pas, mais nous, les fils d'immigrés, on a souffert. On devait régler l'antenne parabolique dans le froid avec mon père qui te criait dessus. J'avais 8 ans, je devais réussir à diriger une parabole en direction d'un satellite. Alors, j'avais 8 ans avec des manuels écrits en allemand, je comprenais rien. Et sans boussole. À l'école, je passais pour un mytho. J'arrivais à l'école, ils me disaient, qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end ? Et moi, j'étais là, j'étais dans mon pavillon au 10e étage et j'ai enfin trouvé le satellite Astra. Voilà, messieurs, dames, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Ahmed Sparrow.
C'était Ahmed Sparrow, effectivement. Vous savez quelle heure il est, Ahmed Sparrow ? L'heure de rendre l'antenne.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai, Ahmed. On a bien rigolé, mais il est un peu tard. Alors, David Mangin, bravo, merci beaucoup. Zoom, zoom, zen.